Gaspard Ruiz, conte romanesque. Chapitre 1er. La guerre civile fait émerger bien des caractères étranges de l'obscurité qui est le lot commun des humbles existences dans l'état ordinaire des sociétés. Certains individus conquièrent la gloire par leurs vices, leurs vertus, ou simplement par des actions qui peuvent avoir une importance passagère, puis sombre dans l'oubli. Les noms de quelques chefs survivent seuls à la fin des conflits pour appartenir à l'histoire. Ils échappent à la mémoire active des hommes pour vivre dans les livres. Le nom du général Santiago a conquis cette froide immortalité livresque. C'était un Sud-Américain de bonne famille, et les ouvrages publiés de son vivant le rangent au nombre de ceux qui arrachèrent un continent à l'étouffante domination de l'Espagne. La longue guerre menée d'un côté pour l'indépendance et de l'autre pour l'oppression, finit par prendre avec le cours des années et les vicissitudes de la fortune la violence et l'inhumanité d'une lutte pour la vie. Tout sentiment de douceur ou de compassion fut étouffé sous la haine politique. Et comme il arrive toujours à la guerre, c'est la masse du peuple qui, ayant le moins à attendre de son issue, souffrit le plus dans son obscurité et son humble fortune. Le général Santiago avait commencé sa carrière comme lieutenant de l'armée patriote, levée et commandée par le fameux San Martin, plus tard vainqueur de Lima et libérateur du Pérou. Une grande bataille venait de se livrer sur les rives du Biobío. Parmi les prisonniers faits sur les troupes royalistes en déroute se trouvait un soldat nommé Gaspar Ruiz, que sa puissante carrure et sa grosse tête faisaient remarquer entre ses compagnons. On ne pouvait pas le méconnaître. Quelques mois plus tôt, il avait été porté manquant dans les rangs de l'armée républicaine, après l'une des nombreuses escarmouches qui précédèrent la grande bataille. Et maintenant, capturé les armes à la main au milieu des royalistes, il ne pouvait, en sa qualité de déserteur, échapper au poteau d'exécution. Gaspar Ruiz n'avait pourtant pas déserté. Son esprit était à peine assez actif pour envisager avec lucidité les avantages ou les périls de la trahison. Pourquoi eût-il changé de parti? Il avait bel et bien été fait prisonnier pour subir comme tel mauvais traitements et privations. Aucun des deux partis n'usait de tendresse à l'endroit de ses adversaires. Un jour vint où le géant reçut l'ordre, avec d'autres rebelles capturés, de marcher au premier rang des troupes royales. On lui mit un fusil dans la main, il le prit, il marcha. Il ne se sentait nulle envie de se faire tuer avec des raffinements de cruauté pour refus d'obéissance. Il ne comprenait pas l'héroïsme, mais il avait bien l'intention de jeter son fusil à la première occasion. Il continua pourtant à le charger et à tirer, de peur de se faire brûler la cervelle au premier signe de rébellion par quelques sous-officiers du roi d'Espagne. Il s'évertuait à exposer ses considérations élémentaires au sergent du peloton commis à sa garde et à celle d'une vingtaine de déserteurs sommairement condamnés à mort comme lui. La scène se passait dans une cour de fort, derrière les batteries qui commandent la rade de Valparaiso. L'officier qui l'avait identifié était parti sans écouter ses protestations. Son sort était irrévocable. Les mains étroitement liées derrière le dos, il souffrait par tout le corps des coups de baguette et de crosse de fusil qui avaient hâté sa marche douloureuse depuis le lieu de sa capture jusqu'à la porte du fort. C'était la seule marque d'attention systématique que les prisonniers eussent obtenue de leur escorte pendant les 4 jours de route à travers un pays pauvre en eau. Au passage des rares ruisseaux, on leur permettait d'étancher leur soif en lapant à la hâte comme des chiens. Le soir, on leur jetait quelques déchets de viande quand ils tombaient morts de fatigue sur le sol pierreux de la halte. Au petit jour, dans la cour du fort, après une nuit de rude marche, Gaspard se sentait la gorge parcheminée et sa langue lui semblait desséchée et tuméfiée dans sa bouche. Outre la soif, Gaspard Ruiz était en proie à une colère sourde qu'il ne savait pas très bien exprimer, comme si la force de son esprit n'eût été nullement à la hauteur de la vigueur de son corps. Les autres condamnés baissaient la tête et regardaient farouchement à leurs pieds. Mais Gaspard Ruiz s'obstinait à répéter, Pourquoi aurais-je déserté? Pourquoi? Dis-le-moi, Esteban. » Il s'adressait au sergent qui se trouvait issu de la même région que lui. Le sergent haussa ses maigres épaules et ne fit plus attention à la voix profonde qui grondait dans son dos. Il était étrange, en effet, que Gaspard Ruiz eût déserté. Ses parents étaient de situation bien trop humble pour être fort sensibles aux avantages d'un gouvernement ou de l'autre. Gaspard Ruiz n'avait aucune raison de payer de sa personne pour soutenir la puissance du roi d'Espagne. Il n'avait pas, d'ailleurs, montré plus d'enthousiasme pour la renverser. Il s'était joint au parti de l'indépendance de la façon la plus raisonnable et la plus naturelle. Une bande de patriotes, surgie un matin de bonne heure autour du rancho paternel, avait en un clin d'œil abattu les chiens de garde et coupé les jarrets des vaches grasses au cri de « Viva la libertad !». Leur officier avait péroré avec enthousiasme et éloquence sur la liberté, après un bon somme réparateur. Quand ils étaient partis, au soir, en emmenant quelques-uns des meilleurs chevaux de Ruiz le père pour remplacer leurs bêtes boiteuses, Gaspard les avait accompagnés pour répondre à l'invitation pressante de l'officier. Peu après, un détachement de troupes royalistes accourut pour pacifier le district, brûla la ferme, emmena ce qui restait de chevaux et de bétail, et, ayant ainsi dépouillé les vieux de tous leurs biens terrestres, les laissa assis sous un arbuste pour jouir de l'inestimable faveur de la vie. Chapitre 2. Gaspard Ruiz, condamné à mort comme déserteur, ne pensait ni à sa ferme natale, ni aux parents pour qui la douceur de son caractère et la grande force de ses membres avaient fait de lui un bon fils. L'avantage pratique de cette vigueur était encore amplifié pour son père par cette soumission. Gaspard Ruiz était obéissant dans l'âme. Il n'était pas moins poussé à une sorte de révolte obscure par sa répugnance à mourir de la mort des traîtres. Il n'était pas un traître. Il répéta au sergent « Tu sais bien que je n'ai pas déserté, Esteban. Tu sais bien que je suis resté en arrière, dans les arbres, avec trois camarades, pour retenir l'ennemi pendant que le détachement fuyait. » Le lieutenant Santiera, presque enfant encore à l'époque, et mal habitué aux imbécilités sanguinaires de la guerre civile, marchait dans la cour du fort comme s'il eût été fasciné par la vue de ces hommes que l'on allait fusiller, pour l'exemple, selon l'expression du commandante. Sans daigner regarder le prisonnier, le sergent s'adressa au jeune officier avec un sourire de supériorité. « Il aurait fallu plus de 10 hommes pour le faire prisonnier, mi teniente. Et les 3 autres ont rejoint le détachement dans la nuit. Pourquoi n'a-t-il pas fait comme eux, lui qui était sans blessure et plus fort que ses camarades ?»« À quoi sert la force contre un cavalier avec un lasso ?» protesta ardemment Gaspard Ruiz. « Il m'a traîné derrière lui pendant un quart de lieue. » Cette excellente raison provoqua chez le sergent un ricanement de mépris. Le jeune officier courut à la recherche du commandante. Bientôt arriva l'adjudant du fort. C'était un vieux dur à cuire brutal, en uniforme loqueteux. Sa voix bredouillante sortait d'un visage plat et jaune. Le sergent lui apprit que les condamnés ne devaient pas être exécutés avant le coucher du soleil, et lui demanda ce qu'il allait faire d'eux jusque-là. L'adjudant jeta autour de lui un regard féroce, et, montrant la porte d'une salle de garde qui prenait air et lumière par une fenêtre à lourds barreaux de fer, dit « Fourrez-moi ces canailles là-dedans !» Le sergent affermit sa main sur la canne à laquelle lui donnait droit son rang, et exécuta l'ordre avec zèle et célérité. Il frappa à la tête et aux épaules Gaspard Ruiz, dont les mouvements lui paraissaient trop lents. Gaspard resta un moment immobile sous la verse des coups. Il se mordait pensivement les lèvres, comme un homme absorbé dans une opération mentale délicate. Puis il suivit sans hâte ses compagnons. La porte fut fermée, et l'adjudant en apporta la clé. Vers midi, la chaleur était devenue intolérable dans la pièce basse, bourrée jusqu'à la suffocation. Groupés près de la fenêtre, les prisonniers imploraient une goutte d'eau de leur gardien. Mais les soldats restaient allongés dans des attitudes indolentes sous l'ombre courte des murs, tandis que la sentinelle, le dos à la porte, fumait une cigarette, en levant philosophiquement les sourcils de temps à autre. Avec une force irrésistible, Gaspard Ruiz s'est effrayé un chemin jusqu'à la fenêtre. Sa vaste poitrine exigeait plus d'air que les autres. Sa grosse figure, dont le menton reposait sur l'appui de la fenêtre, semblait soutenir tous les visages dressés pour aspirer une bouffée d'air. Des gémissements suppliants, les prisonniers avaient passé aux cris désespérés, et les hurlements de douleur de tous ces hommes fous de soif obligèrent un jeune officier qui traversait la cour à élever la voix pour se faire entendre. « Pourquoi ne donnez-vous pas d'eau à ces prisonniers ?» Le sergent s'excusa, avec des airs d'innocente surprise, sur ce que ces hommes étaient condamnés à une mort prochaine. Le lieutenant Santiarra frappa du pied. « Ils sont condamnés à mort, pas à la torture » cria-t-il. « Donnez-leur de l'eau tout de suite !» Émus par cette attitude de colère, les soldats se levèrent et la sentinelle saisit son fusil pour se mettre au port d'armes. Mais lorsqu'on eut trouvé et rempli au puits un couple de baquets, on s'aperçut qu'il était impossible de les faire passer à travers les barreaux trop serrés. À la perspective d'étancher leur soif, les clameurs des prisonniers qui s'écrasaient pour approcher de la fenêtre se firent déchirantes. Et quand les soldats qui avaient levé les seaux vers les barreaux les reposèrent à terre, avec un geste d'impuissance, les cris de désappointement devinrent plus forcenés encore. Les soldats de l'indépendance n'étaient pas pourvus de bidons. On dénicha bien une petite tasse de fer, mais son approche de la fenêtre suscita une telle poussée, de tels cris de rage et de douleur dans la masse confuse des visages levés vers l'ouverture, que le lieutenant Santiarra cria vivement « Non, il faut ouvrir la porte, sergent !» Le sergent expliqua, avec un haussement d'épaule, qu'il n'eût pas eu le droit d'ouvrir cette porte, même s'il en eût possédé la clé. Et c'était l'adjudant du fort qui la gardait dans sa poche. Pourquoi, au surplus, prendre une peine inutile en faveur de gens qui devaient mourir au coucher du soleil? Il ne pouvait comprendre ce qui avait empêché de les fusiller le matin même. Le lieutenant Santiarra tournait obstinément le dos à la fenêtre. C'est sur sa prière expresse que le commandante avait sursis à l'exécution. Ce sursis lui avait été accordé en considération de sa noble famille et de la situation de son père parmi les chefs du parti républicain. Le lieutenant Santiarra croyait que le général viendrait au fort dans le courant de l'après-midi et espérait naïvement que son intercession amènerait le général à faire grâce à quelques-uns au moins de ses criminels. Une réaction brutale lui montrait maintenant, dans sa tentative, une intervention absurde et futile. Il sentait bien que le général n'écouterait pas sa prière. Incapable de sauver ses hommes, il s'était donc seulement rendu responsable des souffrances ajoutées à la cruauté de leur sort. « Alors, cours demander la clé à l'adjudant !» ordonna le lieutenant Santiarra. Le sergent hocha la tête avec un sourire timide et jeta un regard de côté sur Gaspard Ruiz, dont le visage, immobile et silencieux derrière les barreaux de fer, dominait un amas de têtes hagardes, défigurées et hurlantes. « Son honneur, l'adjudant de place, faisait sa sieste, » murmura le sergent. Et, à supposer qu'on l'introduisît en présence de son honneur, il pouvait s'attendre à recevoir une bastonnade mortelle pour avoir osé troubler le repos de son honneur. Il fit des mains un geste d'excuse et resta immobile en baissant sur ses pieds bruns des yeux modestes. Le lieutenant Santiarra éclatait d'indignation, mais il hésita. Son beau visage ovale, poli comme celui d'une jeune fille, s'empourpra de la honte de sa perplexité. Il se sentait profondément humilié, sa jeune lèvre trembla. Il paraissait prêt à un accès de fureur ou à un déluge de larmes. 50 ans plus tard, le général Santiarra, relique vénérable des temps révolutionnaires, gardait très nettement le souvenir de ses sensations de jeune lieutenant. Depuis qu'il avait dû renoncer à l'équitation et éprouver de la peine à sortir de son jardin, la plus grande joie du général était de réunir chez lui les officiers d'un navire de guerre de passage dans le port. Les officiers anglais de tout grade acceptait son hospitalité avec curiosité, parce qu'il avait connu Lord Cochrane, et pris part, sur la flottille patriote commandée par ce merveilleux marin, aux opérations du blocus de Callao. épisode de pure gloire dans les guerres de l'indépendance et d'honneur infini dans les traditions guerrières de l'Angleterre. C'était un bon linguiste que ce survivant des années libératrices, et l'innocente manie qui lui faisait caresser sa longue barbe blanche, chaque fois qu'il hésitait devant un mot français ou anglais, donnait au ton de ses souvenirs un parfum de dignité placide. Chapitre 3. Oui, mes amis, disait-il à ses hôtes, qu'aurais-je pu faire? Âgé de 17 ans seulement, et sans la moindre connaissance du monde, je ne devais mon grade qu'au glorieux patriotisme de mon père, Dieu et son âme. J'éprouvais une affreuse humiliation, moins de la désobéissance de ce subordonné, qui, après tout, était responsable de ses prisonniers, que de ma propre terreur à l'idée d'aller moi-même demander la clé à l'adjudant. J'avais déjà subi ces rudes sarcasmes. Homme vulgaire, sans autre mérite qu'un farouche courage, il m'avait, dès le jour de mon arrivée au fort, témoigné mépris et aversion. Et il n'y avait pas 15 jours que j'avais rejoint le bataillon. Je l'aurais provoqué épée en main, sans ma terreur de sa brutalité moqueuse et de ses ricanements. Je ne me souviens pas d'avoir, avant ou depuis ce jour, souffert pareille torture morale. Mon tourment était si fort que j'aurais voulu voir le sergent tomber mort à mes pieds et changer en cadavre les soldats qui me regardaient stupidement. Les malheureux même à qui ma prière avait valu un inutile sursis, j'aurais souhaité leur mort parce que je ne pouvais les regarder sans honte. Une odeur méphitique sortait du trou où ils étaient enfermés, comme une bouffée montée de l'enfer. Les prisonniers les plus rapprochés de la fenêtre, témoins de ma déconvenue, se moquaient de moi avec désespoir. Un des misérables, devenu fou sans doute, me suppliait avec volubilité de donner aux soldats l'ordre de tirer par la fenêtre. Sa loquacité démente me faisait tourner le cœur, et je me sentais des pieds de plomb. Il n'y avait pas d'autre officier à qui je pusse m'adresser. Je n'avais pas même assez de décision pour m'éloigner. Paralysé par le remords, je gardais le dos tourné à la fenêtre. Ne croyez pas que tout ceci eût duré bien longtemps. Combien de temps? 1 minute peut-être. À juger de ma torture morale, cette minute-là s'était prolongée 100 ans, bien plus que toute ma vie depuis. Non, la scène ne dura pas même 1 minute. Les cris rauques des malheureux captifs s'éteignirent dans leur gorge sèche, et tout à coup une voix s'éleva, une voix profonde et calme, qui me priait de me retourner. Cette voix, señores, sortait des lèvres de Gaspar Ruiz. De son corps, je ne distinguais rien. Quelques-uns de ses camarades avaient sauté sur son dos, et il les portait. Ses yeux clignotaient sans me regarder. Ce mouvement des lèvres et des paupières semblait être le seul effort dont il fut capable sous le fait énorme qui l'accablait. Et lorsque je me retournais, la tête qui me paraissait de taille plus qu'humaine, au-dessus du menton appuyé, et sous la multitude d'autres têtes, me demanda si je désirais vraiment étancher la soif des prisonniers. Je répondis « oui, oui » avec ardeur, et je vins me coller à la fenêtre. J'étais un vrai enfant, et je ne savais ce qui allait arriver. Je cherchais un adoucissement à mon remords et au sentiment de mon impuissance. Avez-vous assez d'autorité, señor teniente, pour défaire les liens de mes mains? Demanda Gaspar Ruiz. Ses traits n'exprimaient ni anxiété ni espoir. Ses lourdes paupières tombaient sur ses yeux, qui regardaient par-dessus moi dans la cour. Je balbutiais, comme un homme en proie à un affreux cauchemar. Que voulez-vous dire? Comment pourrais-je atteindre les liens de vos poignets? Je vais faire de mon mieux, répondit-il. La large face aux yeux fixes s'écarta de la fenêtre, et tous les visages collés aux barreaux s'effacèrent dans l'ombre. Il avait jeté bas son fardeau d'un seul mouvement, tant il était fort. Il s'était en même temps libéré de ceux qui l'étouffaient et disparut à mes yeux. Pendant un instant, je ne vis plus personne à la fenêtre. Gaspard s'était retourné et, à coups de tête et d'épaule, de la seule façon qu'il lui fut permise, avec les mains liées derrière le dos, se frayait un chemin. Enfin, le dos tourné vers la fenêtre, il poussa entre les barreaux ses poings serrés de plusieurs tours de corde. ses mains enflées, avec des veines noueuses, paraissait énorme et mastoc. Je vis son dos voûté, très large. Sa voix était grave comme un mugissement de taureau. « Coupez, señor teniente, coupez !» Je tirai mon épée, l'épée toute neuve qui n'avait rien vu encore, et je tranchai les nombreux tours de lanières de cuir. J'agissais ainsi sans comprendre la raison ou la portée de mon geste, et comme si j'eusse été invinciblement poussé par ma foi en cet homme. Le sergent parut tout prêt à pousser un cri, mais la stupeur le privait de voix, et il resta immobile, la bouche ouverte, comme un homme frappé d'un accès soudain d'imbécillité. Je rengainai ma lame et me tournai vers les soldats, dont un air d'attente effaré avait remplacé l'attitude d'apathie indolente. J'entendis la voix de Gaspard Ruiz crier des paroles dont je ne discernais pas bien le sens. Je suppose que la liberté de ses bras ajoutait à l'influence de sa force, je veux dire à l'influence spirituelle qu'exerce sur des gens ignorants une vigueur exceptionnelle. En réalité, il n'était pas plus redoutable qu'avant, à cause de l'engourdissement de ses bras et de ses mains qui persista quelque temps. Le sergent avait recouvré l'usage de la parole. « Par tous les saints, s'écria-t-il, il va falloir que nous fassions venir un cavalier avec son lasso pour disposer de lui si nous voulons l'emmener au poteau d'exécution. Il faudra un bon enlaçador sur un fort cheval pour en venir à bout. Votre Excellence a fait une belle folie. » Je ne trouvai rien à répondre. J'étais surpris moi-même et j'éprouvais l'enfantine curiosité de voir ce qui allait arriver. Le sergent, lui, ne songeait qu'à la difficulté de maîtriser son prisonnier quand l'heure serait venue de faire un exemple. « Nous allons être obligés de lui tirer dessus par la porte ouverte, dès qu'il voudra sortir, » poursuivit-il d'un ton maussade. Il allait donner un nouveau cours à ses inquiétudes, touchant l'exécution correcte de la sentence, quand il s'interrompit avec une exclamation soudaine, arracha un fusil à un soldat et resta attentif, les yeux fixés sur la fenêtre. Chapitre 4. Gaspard Ruiz, grimpé sur le bord de la fenêtre, s'y était assis, les pieds contre l'épaisseur du mur et les genoux légèrement pliés. L'ouverture n'était pas tout à fait assez large pour la longueur de ses jambes. Je crus, dans mon abattement, qu'il prétendait garder la fenêtre pour lui seul. On eût dit qu'il cherchait une position de repos. Aucun des prisonniers n'osait plus l'approcher, maintenant qu'il avait les mains libres. « Por Dios, » entendis-je le sergent grommeler près de moi, « je vais lui envoyer une balle dans la tête et nous débarrasser de lui. C'est un condamné. » Je le regardai avec colère. « Le général n'a pas confirmé la sentence, » répliquai-je, non sans sentir, au fond du cœur, l'inanité de ses paroles. La sentence ne demandait pas de confirmation. « Vous n'avez pas le droit de le tuer s'il n'essaie pas de s'enfuir. » « Mais, sangre de Dios !» hurla le sergent en épaulant son fusil. « Le voilà qui s'échappe, regardez !» Comme si ce Gaspard m'eût jeté un sort, je relevai brusquement le fusil, et la balle fila par-dessus le toit. Le sergent jeta son arme à terre, et se tint coi, les yeux grands ouverts. Il eût pu ordonner à ses hommes de tirer, mais ils n'en firent rien. Et d'ailleurs, les soldats n'auraient pas obéi, sans doute, à ce moment-là. Gaspard restait immobile comme une statue, les pieds appliqués au mur et ses mains velues sur la barre de fer. Rien ne se passa pendant quelques instants, et tout à coup, je vis le géant redresser son dos voûté et contracter ses muscles. Ses lèvres se retroussaient en découvrant ses dents. Puis je m'aperçus que, sous sa traction formidable, le barreau de fer se tordait lentement. Le soleil dardait sur ses traits, figé dans leur effort, et la sueur ruisselait en grosses gouttes sur son front. En regardant le barreau, je vis du sang filtrer sous les ongles de Gaspard. Il cessa enfin de tirer et resta un instant recroquevillé, la tête pendante, regardant d'un air somnolent dans la paume de ses mains puissantes. On eût dit qu'il venait de s'éveiller. Brusquement, il s'arc-bouta contre le bord de la fenêtre, appliqua contre le second barreau la plante de ses pieds nus, et le tordit en sens inverse du premier. Telle était sa force, dont, en l'occurrence, l'effet soulagea mes pensées douloureuses. et l'on aurait cru qu'il n'avait rien fait. Sauf le changement de position, dont la vivacité nous avait surpris, je n'ai gardé de cette scène qu'une impression d'immobilité. Il avait largement écarté les barreaux, pourtant, et il aurait pu sortir si tel eût été son désir. Mais il laissa retomber ses jambes dans la cellule et tourna la tête par-dessus son épaule en faisant signe aux soldats. « Envoyez-l'eau, dit-il, je vais leur donner à boire. » On lui obéit. Pendant un instant, je m'attendis à voir disparaître le seau et l'homme, submergés sous un élan furieux. Je crus que les prisonniers allaient faire tomber Ruiz à coups de dents. Il se ruait sur lui, mais avec son seau sur les genoux, il repoussa l'assaut des malheureux rien qu'en balançant ses pieds. Il retombait en arrière avec des hurlements de douleur, et les soldats riaient de ce spectacle. Ils riaient tous à se tenir les côtes, sauf le sergent qui restait sombre et morose. Il redoutait que les prisonniers soulevés ne prissent la fuite. D'ailleurs, il n'y avait rien à craindre de semblable, et je me tenais moi-même devant la fenêtre, l'épée à la main. Lorsque la force de Gaspard Ruiz les eut remis à la raison, les captifs s'approchèrent de lui un à un, en tendant le cou vers le seau que le géant inclinait sur leurs lèvres, avec un air singulier de charité, de douceur et de compassion. Cet aspect de bienveillance était l'effet de l'attention qu'il apportait à ne pas perdre d'eau et de sa posture sur le bord de la fenêtre. Si l'un des prisonniers s'obstinait à garder les lèvres collées au bord du seau après que Gaspard avait dit « assez », il n'y avait ni tendresse ni douceur dans le coup de pied qui le renvoyait, courbé en deux et gémissant dans l'intérieur de la cellule, où il culbutait deux ou trois de ses camarades avant de retomber lui-même. Il revenait tour à tour vers lui. On aurait dit qu'il voulait mettre le puits à sec avant de mourir. Car les soldats, amusés par la distribution méthodique de Gaspard Ruiz, apportaient gaiement les seaux à la fenêtre. Quand l'adjudant parut dans la cour, après sa sieste, il y eut de beaux cris, je vous l'affirme. Et le pire, c'est que le général attendu ne vint pas au château ce jour-là. Les hôtes du général Santiarra exprimèrent le regret unanime qu'un homme si fort et si patient n'eût pas été sauvé. « Il ne le fut pas par mon entremise, » reprit le général. Les prisonniers furent conduits au terrain d'exécution une heure avant le coucher du soleil. Démentant les appréhensions du sergent, Gaspard Ruiz ne donna aucune peine. On n'eut pas besoin d'avoir recours à un cavalier armé d'un lasso pour le maîtriser, comme un taureau sauvage du campo. Je crois qu'il s'en alla les bras libres au milieu des autres prisonniers ligotés. Je ne le vis pas, je n'étais plus là. J'avais été mis aux arrêts pour mon intervention en faveur des prisonniers. Au crépuscule, tristement assis dans ma chambre, je perçus dans le lointain trois salves, et je crus que je n'entendrais jamais plus parler de Gaspard Ruiz. Nous devions le voir pourtant, bien que le sergent se vantât de lui avoir coupé le cou avec son sabre, après l'avoir trouvé mort ou expirant sous le tas des fusillés. Il avait fait cela, à l'en croire, pour débarrasser le monde d'un traître redoutable. Je vous avoue, messieurs, que je songeais à ce colosse avec une sorte de gratitude et quelque admiration. Il avait fait de sa force un honorable usage. Son âme n'abritait pas une férocité correspondant à la vigueur de son corps.